CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans le 49e épisode du podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste reporter pour CDI Média et je suis toujours en compagnie de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès, mais aussi auteur de la série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Salut Mickaël.
Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial Sylvain, car nous allons parler à travers de cette histoire d'entrepreneuriat de la création d'une icône américaine et même mondiale d'ailleurs, sous les traits d'une simple poupée. Évidemment, vous l'avez compris, on va raconter l'histoire de la création de Barbie, et plus précisément de son inventrice, Ruth Handler, et de son mari qui s'appelle Elliot, qui ont réussi à propulser du coup leur petite entreprise Mattel à la place du numéro 1 mondial du jouet. Allons-y.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors Sylvain, Ruth Handler, elle est née Ruth Moscow en 1916 à Denver.
Oui, donc Handler, c'est le nom de son mari, hein, on va y venir. Donc, elle est née dans une famille très modeste, hein, d'émigrés juifs polonais. Bon, il y avait 10 enfants dans la famille, elle c'était la plus petite. Son père était ouvrier, sa mère décède alors qu'elle est jeune, elle est élevée par ses grands frères et sœurs. Donc c'est une enfance assez difficile, hein, assez modeste clairement. C'est pas une élève très douée à l'école, elle aime pas trop l'école, elle a pas ce côté le petit génie qu'on détecte dès l'enfance et que les professeurs poussent à la réussite.
Oui, elle a plutôt une enfance ordinaire.
Oui, ordinaire pour ce milieu modeste. Par contre, elle est assez débrouillarde, elle a beaucoup de caractère.
Caractère trempé.
Ouais, c'est paradoxalement un peu ce qu'on appellerait un garçon manqué. Et elle n'est pas du tout du genre à jouer avec des poupées, quoi. Plutôt du genre à jouer aux cow-boys et aux indiens avec les autres garçons.
Quand on sait ce qu'elle va inventer, c'est
bizarre. Voilà, il y a un peu un paradoxe. Mais voilà, on cerne un peu cette personnalité qui est plus orientée vers l'action que vers la réflexion, en fait.
Donc du coup, tu l'as dit, elle est élevée par ses frères et sœurs. Enfance plutôt ordinaire, et c'est une rencontre au lycée qui va un peu conditionner sa vie.
Oui, donc elle rencontre au lycée un certain Elliot Handler, on va pas faire durer le suspense.
J'ai vendu la mèche en intro.
Qu'elle va épouser donc dès 1938, donc lui, il va être designer hein, quand il est adolescent ou jeune homme, et à la fin de ses études, il part pour Los Angeles, donc là on est dans Denver dans le Colorado, donc une petite ville où il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités professionnelles, donc il déménage à Los Angeles. Et donc, Elliot va lancer en 1945, avec un certain Harold Matson, dit Matt, une entreprise qui fabrique au début, alors ça n'a rien à voir avec les jouets, c'est des cadres pour photos en plastique.
Ah oui, d'accord, voilà, rien à voir.
Là où on met les photos, ils font des cadres comme ça dans leur garage, et donc ils appellent leur entreprise Mattel.
Oui, tu nous as parlé d'un Matt.
Voilà, parce qu'il y a le Matt, donc, qui est le cofondateur, et puis il y a Elliot, donc voilà, la contraction des deux noms fait Mattel, donc c'est de là que vient le nom de l'entreprise.
Mais comment on passe de cadre à photo ou jouer, enfin je vais peut-être un peu trop vite, mais...
Oui, comment... non, tu, la question est très bonne, Mickaël, puisque c'est vrai qu'au début, ils font des cadres à photos, donc rien à voir avec les jouets, en plastique, ça c'est important.
D'accord.
Et ça marche pas forcément très bien. Ouais. Bon, ils vivotent un peu avec ça, et ils se rendent compte qu'ils ont des chutes de plastique, et pour les valoriser, disons, ils en font des jouets, des petites maisons de poupées,
ah oui,
des brouettes, des je ne sais quoi, des motos, enfin voilà, des jouets divers et variés.
Donc c'est une diversification un peu inattendue.
Oui, improvisée en fait. Hein. C'est parce qu'ils ont des chutes de plastique et qu'ils essaient d'en faire quelque chose plutôt que de les jeter. Et en fait, cette division, disons, jouée, qui est créée un petit peu comme une roue de secours, eh ben, en fait, elle va prendre, alors que les cadres de photos ne marchent pas et qui vont assez vite être arrêtés. Cette division jouée, elle, prend son essor.
Et ça va devenir l'activité principale.
Voilà, et ça va assez vite devenir l'activité principale de l'entreprise. Et Mattel va devenir, disons, on va dire, une grosse PME du jouet en plastique dans les années, fin des années 40, début des années 50.
Ruth, en parallèle, elle est très investie dans la société, même si elle est mère au foyer.
Oui, alors, donc elle a deux enfants, il faut en parler parce que ce sera important pour la suite, hein, Barbara et Kenneth, on verra l'importance de ces prénoms.
On comprend un peu, mais on
précisera. Donc, elle est au début, disons, plutôt mère au foyer, mais elle n'a pas un caractère de mère au foyer.
On
l'a dit, c'est une fonceuse, elle aime faire des choses, elle n'a pas le tempérament à rester chez elle, à pouponner toute la journée. Donc elle travaille dans l'entreprise, au début comme salariée, un peu assistante plutôt de son mari. Et après, Harold Matson, donc Matt, le cofondateur, va tomber malade, divers problèmes de santé, va petit à petit en fait quitter l'entreprise parce que pour raison de santé, et donc elle va prendre un peu sa place et va devenir un petit peu l'associée, la co-gérante avec son mari. Donc ça va devenir une entreprise familiale gérée par le couple Handler.
Et tu l'as dit tout à l'heure, ça devient une petite PME, mais en fait ça grossit petit à petit.
Oui, ça grossit petit à petit. Ils ont des bonnes idées, notamment, c'est parmi les premiers à miser sur la publicité télé. On est dans les années 50, donc c'est l'émergence de la télévision.
C'est avant-gardiste.
Ils sont assez avant-gardistes. Ils sont parmi les premiers aussi à être partenaires du Mickey Mouse Club, donc qui était à l'époque extrêmement populaire chez les enfants, donc pour placer leurs produits.
C'est très malin.
Et donc, en fait, ils ont une stratégie de communication qui est assez innovante pour l'époque et qui fait qu'ils prennent une place assez importante sur le marché du jouet en plastique. Donc, ça devient une grosse PME, ou on dirait même une ETI aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une affaire qui prend son essor.
Et tu le dis, ils ont des idées de communication, mais Ruth, elle a aussi d'autres types d'idées.
Oui, alors Ruth, elle a une idée en voyant sa fille, donc sa fille Barbara, jouer à la poupée. Et elle se dit, ces poupées, on va dire traditionnelles, un peu ces espèces de gros bébés.
Des poupons, quoi.
Voilà, des poupons. C'est pas ce qu'il faut, c'est pas ce que veulent les enfants, les jeunes filles. Puisqu'elle voit sa fille qui fait des poupées, qui essaie de faire des poupées un peu en papier elle-même. Et elle se dit, mais en fait, ce que cherche ma fille, c'est une poupée qui serait la femme qu'elle aimerait être. Donc, elle a envie de se projeter via sa poupée, elle a envie de se projeter dans sa vie d'adulte. Et elle n'a pas du tout envie d'avoir cette espèce de poupon aux yeux un peu vitreux, les poupées un peu traditionnelles. Et donc, elle se dit, voilà, il y a un marché à prendre sur un nouveau type de poupée. Plus féminine, en fait, une poupée qui serait une femme. Et donc, elle en parle à son mari, évidemment.
Ah oui, ils ont une fabrique de jouets, autant
voilà,
en parler.
Les deux dirigent l'entreprise ensemble. Alors, lui, il n'est pas du tout emballé.
Ah.
Il ne croit pas du tout au projet. Donc, le projet, en fait, cette idée qu'elle a comme ça dans sa tête va prendre la poussière, on va dire.
Elle va la mettre de côté.
Voilà, elle va la mettre de côté pendant quelques années. Et ça va rebondir de manière un peu inattendue, en fait.
Oui, parce que le destin de Mattel, il ne va pas se jouer à Los Angeles, mais beaucoup plus loin.
Il va se jouer en Suisse, au début en Allemagne. Donc en Allemagne, il y avait donc le journal qui existe toujours, le journal Bild, le tabloïd. Mmh. À cette époque-là, dans les années 50, avait créé une sorte de petite bande dessinée avec une jeune femme qui s'appelait Lily, qui était une jeune secrétaire, mais on va dire très sexy, très ambitieuse, très entreprenante, pas farouche du tout.
Un peu à destination des hommes.
Clairement à destination des hommes, c'est un tabloïd, c'est pas un journal intellectuel. Et la bande dessinée donc, qui paraissait périodiquement dans ce journal avait du succès. Et donc le journal avait créé une poupée en plastique, une figurine en plastique représentant Lily, donc une figurine très, très sexy, clairement à destination d'un public masculin, typiquement le gadget qu'on s'offre dans les enterrements de vie de garçon, etc. Donc c'est pas du tout à destination des enfants pour l'instant.
Ça se vendait plutôt dans les bureaux de journaux.
Voilà, les bureaux de journaux, c'est un peu les hommes qui vont acheter leur paquet de clubs, qui voient la figurine, qui disent tiens, je vais l'acheter, je vais l'offrir à un copain, etc. Bon. Et il se trouve que totalement par hasard, Ruth Handler, dans un voyage en Suisse, voit cette figurine dans une boutique, on sait pas trop laquelle, probablement un marchand de journaux, et se dit mais voilà, c'est ça, c'est la poupée à laquelle j'ai pensé.
C'est l'idée qu'elle avait eue quelques temps auparavant.
Voilà, en fait, elle a vu. Déjà créé l'idée qu'elle avait eue, on va dire, dans sa tête. Et donc là, ça relance son idée. Elle se dit, mais non, c'est vraiment ça, c'est ça que je veux faire. Et donc, elle repart à l'assaut, disons, de son mari, du scepticisme de son mari.
Elle rentre à Los Angeles avec Lily.
Voilà, elle achète une figurine et elle dit à son mari, regarde, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bon, elle parvient à le convaincre et il lance cette poupée, alors un petit peu différente, parce que il retravaille la figurine, elle est plus petite.
Ils vont la redessiner.
Voilà, ils vont la redessiner, elle a des membres mobiles. Au début, ils n'achètent pas les droits de Lily, parce que la poupée est quand même très différente. Mais dans l'idée, c'est toujours un petit peu ça. C'est toujours... c'est plus un nourrisson, c'est une jeune femme sexy, avec des formes vraiment de femme. Et donc, ils lancent le produit, qu'ils appellent évidemment... On a un peu défleuré le suspense, mais enfin, Barbie, du nom de sa fille Barbara. Hein, et en 1959, il lance ce produit qui est un succès absolument instantané.
C'est un peu rendre à César ce qui lui appartient, parce que c'est un peu Barbara qui a eu l'idée de la poupée en premier, enfin,
oui, voilà,
qui a inspiré sa mère.
Il y a vraiment une relation entre la mère et la fille, puisque c'est en voyant jouer sa fille que la mère a eu l'idée, et elle a appelé la Barbie Barbara du surnom qu'elle donnait à sa fille.
Avant de parler de la suite, les inventeurs Lily, ils n'ont pas remarqué qu'il y avait une Barbie qui se crée aux États-Unis ?
Et Barbie va racheter les droits de Lily, mais quelques années plus tard. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait quand même une forte différence
entre les deux.
Donc, c'était pas exactement le même produit. Donc, disons, en tout cas, d'un point de vue juridique, tant que le produit était uniquement aux États-Unis, ils ont pu le développer. Mais après, ils ont racheté les droits de Lily pour... voilà, pour leur développement mondial, pour qu'il n'y ait aucun obstacle juridique. Mais notamment, la poupée Barbie était articulée alors que Lily était fixe.
Oui, c'est pas la même utilisation, c'était vraiment voilà, destination des enfants.
Et c'est pas du tout la même cible, puisque oui. Lily, c'était à destination d'une clientèle masculine, clairement, masculine et adulte, et la Barbie, comme on le sait, à destination des petites filles.
C'est quasiment collector d'avoir une poupée Lily à l'heure actuelle.
Ouais, sûrement, peut-être que ça se vend très cher sur les sites d'occasion, je sais pas.
Faudrait regarder. Alors à l'époque, ils développent et ils produisent Barbie aux États-Unis, mais tous les accessoires et les vêtements, c'était produit au Japon.
Oui, donc on est à la fin des années 50, hein, donc c'est le Japon qui était l'usine du monde à bas coût à l'époque, hein, maintenant c'est plutôt la Chine ou le Vietnam. Et donc déjà, dès le début, en fait, hein, une bonne partie de la production est externalisée, délocalisée dans des pays à bas coût. Ensuite, ce sera la Chine. Hein, la plupart des Barbie et des accessoires aujourd'hui sont faits en Chine. Donc il y avait déjà, on est déjà sur une grosse ETI, en fait. Hein, c'est pas juste dans leur garage. Ils avaient déjà une grande entreprise et une stratégie d'approvisionnement et bientôt de vente qui était déjà mondiale.
Donc Barbie sort, tu l'as dit, en 1959. Donc évidemment, ça marche auprès des enfants, mais ça attire aussi beaucoup de critiques.
Oui, alors dès le début, Barbie a attiré à la fois l'engouement de la clientèle et les critiques. Puisque les critiques, évidemment, on les connaît. Hein, c'est la sexualisation de la femme, c'est l'idée que la femme ou les petites filles devront ressembler à Barbie et à ce physique très, très filiforme qui est en fait celui de très peu de femmes. Et donc, la critique, c'est une critique de corseter un peu l'image de la femme dès l'enfance, en fait. Alors, Ruth Handler, évidemment, balaye ses critiques.
Elle a des arguments contre.
Voilà, elle a des arguments. Elle dit que, de toute façon, les femmes ont toujours été complexées. Au Moyen-Âge, elles toutes ressembler à des princesses et à des reines. Et en fait, c'était des paysannes qui n'auraient jamais les mêmes robes et la même vie que leur modèle. Donc, alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est son argument.
Hein, oui, c'est ce qu'elle y a.
De dire que, de toute façon, les femmes ont toujours été complexées et que Barbie n'y changeait rien. Bon, c'est peut-être une manière de glisser le problème sous le tapis. Son autre argument, qui a peut-être un peu plus de poids, c'est de dire que Barbie projette l'image d'une femme ambitieuse qui travaille. Barbie a été déclinée en 200 professions. Elle était par exemple médecin dans les années 50-60, que des jeunes femmes deviennent médecins, fassent des études longues, c'était pas forcément évident. Donc son argument, c'est de dire je ne corsette pas la femme ou les petites filles dans un monde de femmes au foyer un peu traditionnel, au contraire, je les projette dans un monde où je leur dis, le message c'est soyez ambitieuses, faites des études, réussissez, ne soyez pas un peu la potiche, quoi. Prenez votre destinée en main. Donc c'est un autre argument à partir duquel elle a évincé ou on va dire contré certaines critiques.
Ruth se laisse pas faire donc du coup et Barbie non plus puisque son univers s'étend rapidement.
Oui, donc au début c'est une simple poupée avec quelques accessoires très 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 basiques, quelques vêtements par exemple. Dès 1961, donc au bout de 2 ans, il y a Ken, donc le pendant masculin qui est nommé Ken d'après son fils Kenneth.
Hein, Kenneth,
donc,
ouais. Voilà, c'est vraiment les enfants, quoi.
Voilà, il y a filiation. Il paraît qu'ils n'ont pas du tout aimé ça parce que tout le monde se moquait d'eux à l'école. Donc, ça leur a pas beaucoup plu. Mais ils ont leur prénom est passé à la postérité. Donc, évidemment, elle développe d'autres accessoires, des maisons, des voitures, enfin tout l'univers Barbie. Développe une Barbie, par exemple, afro-américaine.
Oui, son physique va évoluer.
Son physique va évoluer, donc la couleur de peau, quoi, de plastique, mais la couleur de peau donc de Barbie va évoluer. Il y aura plusieurs couleurs de peau, il y aura plusieurs silhouettes. La Barbie très filiforme va un peu évoluer, être un peu plus, on va dire, conforme à la réalité du corps humain, si on peut dire ça comme ça. Il va y avoir des Barbie à l'effigie de Star, d'Audrey Byrne, plus tard de J.K. Rowling. Donc voilà, évidemment, le couple Handler exploite le filon commercial. Ils ont bien compris qu'il y a un filon à prendre. Ils vont pas se contenter de juste vendre des Barbie. S'ils peuvent vendre aussi des Ken, s'ils peuvent vendre la maison, s'ils peuvent vendre la niche du chien, etc. Donc c'est avant tout des entrepreneurs et des commerçants.
Barbie, c'est un succès mondial.
C'est un succès mondial. C'est devenu, avec Coca-Cola et le Big Mac, une sorte d'incarnation des États-Unis, c'est vendu dans le monde entier, il s'en vend à peu près 100 par minute.
C'est impressionnant.
Dans 150 pays, une enfant américaine, une fille américaine a en moyenne 8 Barbie. Donc ça veut dire qu'il y en a qui en ont je ne sais pas combien de dizaines.
Oui, oui.
Et ça devient un symbole, puisque par exemple, même en Iran, Barbie va être interdit, ou en tout cas partiellement interdit, parce que c'est un symbole de femme assez sexy. Donc il y a vraiment un phénomène de société mondiale. En fait,
tout le monde connaît Barbie.
99% des gens dans le monde connaissent Barbie.
C'est un truc de fou. En parallèle, donc Barbie prend son envol, et Rousse aussi, puisqu'elle prend la direction de Mattel.
Oui, alors petit à petit, c'est elle qui va prendre les rênes de l'entreprise dans les années 60. Donc son mari est toujours là, mais il va prendre une place plus secondaire. Et alors c'est elle qui va diriger l'entreprise, pas toujours avec des succès, notamment puisque Mattel tente de se diversifier dans le jeu vidéo. On est là dans les années 70, c'est le début des consoles, c'est le début de Nintendo. Ils vont tenter de percer ce marché-là et ça va pas du tout fonctionner.
Mais elle avait quand même le nez creux, parce que pour y penser dans les années 70...
Oui, elle avait flairé le filon du jeu vidéo. Mais Mattel n'a pas su l'aborder comme il fallait. Ils ont fait des espèces de consoles, mi-ordinateur, mi-Game Boy, qui en fait n'ont jamais plu à personne. Et donc il y aura des pertes financières assez importantes. Et pour ne rien arranger, il y aura des falsifications comptables pour que ces pertes financières n'aient pas trop d'impact sur le cours de bourse.
Elle aurait jamais dû prendre la direction.
Oui, alors elle a dit, moi j'y suis pour rien, c'est mes comptables, mon directeur financier,
oui, c'est les
qui
cadres,
a fait ça.
Ouais.
Voilà. Bon, on sait pas trop. Alors elle a finalement été condamnée à des travaux d'intérêt généraux, donc elle est peut-être un peu pour quelque chose. Bon,
Et le couple a été évincé.
Voilà, le couple progressivement, dans les années 70, face au scandale, va être évincé de la direction. C'est un dirigeant externe qui va prendre la tête de l'entreprise. Ruth Handler sera condamné à des travaux d'intérêt généraux pour ses probablement falsifications, même si elle a toujours nié y être.
Bon, elle a pris pour les autres, on va dire.
Peut-être, voilà, on ne sait pas trop le fond de l'histoire.
En tout cas, Rousse, elle arrive à rebondir d'une façon assez étonnante.
Oui, en fait, totalement inattendue, elle est malade d'un cancer du sein, et donc elle a subi une ablation du sein, et elle trouve que les prothèses qui lui sont proposées ne conviennent pas. Alors, j'y connais rien en la matière, mais en tout cas, elle n'est pas satisfaite du produit.
Donc là, on est dans les années 70-80.
Oui, même plus 80. Et donc, elle va lancer, en fait, sa propre entreprise de prothèses mammaires. Donc, c'est une diversification ou un rebond inattendu, et dont elle se serait sûrement bien passée. Donc elle crée Rootsman Corps, donc c'est une entreprise de prothèses, prothèses mammaires d'abord, qui va s'étendre, alors qui ne deviendra pas un géant de la santé comme a pu l'être Mattel dans le jouet, mais enfin qui deviendra quand même une grosse PME. Et en fait, Rousse Handler aura une sorte de deuxième vie entrepreneuriale dans la santé, en fait, de manière assez inattendue.
Mais comme quoi, c'était pas un hasard.
Oui, mais elle avait c'est aussi une question de tempérament. Hein. C'était quelqu'un qui ne tenait pas en place, qui avait toujours des idées, qui voulait les développer. Et donc elle avait un tempérament d'entrepreneuse. Donc c'est pas très surprenant qu'elle ait rebondi de cette façon-là avec une nouvelle entreprise.
Elle décède en 2002.
Voilà, en 2002, d'un cancer. Donc elle a eu plusieurs rechutes, je ne sais pas le terme médical exact. Elle décède d'un cancer en 2002. Son mari décède en 2011. Et Mattel, alors, poursuit son développement.
Il s'est redressé, oui, Mattel, depuis les années 70.
Voilà, c'est redressé. Il y a eu un peu un passage à vide, mais Barbie avait continué son essor. Mattel, on ne le sait pas forcément, mais c'est aussi Scrabble, c'est aussi Uno, c'est beaucoup de jeux de société. Alors, Mattel a été le numéro 1 mondial du jeu. Et puis après, c'est fait dépasser par Lego. Dans les années 2000, Lego avait connu aussi une crise et puis a très bien rebondi. C'est un peu les deux qui se tirent la bourre en la tête du marché mondial du jeu. Et dernièrement, depuis quelques années, c'est plutôt Lego qui a repris la première place. Barbie fait un peu moins recette.
Commence à s'essouffler.
Voilà, commence à s'essouffler. L'image véhiculée par Barbie de cette femme un peu parfaite, au corps parfait, même au-delà des mouvements féministes, même chez la clientèle, chez les petites filles, il y a un peu un essoufflement. Et donc, c'est plutôt Lego aujourd'hui qui a repris le flambeau, et Mattel qui est le nouveau numéro 2.
Un peu passé de mode, mais bon, désormais, ils vont faire un truc qu'ils n'ont jamais fait. Il y a un film qui est en salle, parce qu'il n'y avait jamais eu de film autour de Barbie, ni rien. Enfin, des temps
voilà, il y avait eu quelques projets de films d'animation, dessins animés, mais il n'y avait jamais eu de film en tant que tel. Et donc, ça peut être aussi un moyen pour Barbie, pour Mattel, de se faire connaître, de rebondir, de changer son image. Alors, ça peut être aussi un flop, donc ça peut être à double tranchant, mais enfin, c'est une tentative d'essayer de de relancer la marque et sa notoriété.
La poupée Barbie a donc bien survécu à sa créatrice et elle n'est pas prête finalement en fait, de disparaître. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Je rappelle que cette histoire, Sylvain, elle est tirée de ton livre Entrepreneuse de légende qu'on peut retrouver aux éditions Hendrik B. On vous remercie tous les deux d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous partager. On va faire évidemment une petite pause estivale là, mais on revient en septembre avec le 50e épisode. Pendant les vacances, évidemment, vous pouvez réécouter tous les anciens épisodes de notre podcast. Elles sont sur toutes les bonnes plateformes audio ou sur CDI Podcast. On vous dit bonnes vacances et à très vite.
CDI Podcast. Entrepreneur de légende.